territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La violence, la bourgeoisie a le monopole de la violence. Regarde ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. On n'a pas regardé ce que voulaient les gilets jaunes, contre quoi ils se sont battus, pourquoi ils s'y sont manifestés. Non, ils ont été violents, donc ils sont condamnés. On oublie la violence policière, une grande brutalité. Seul le pouvoir en place peut utiliser la violence, y compris de façon complètement abusive. Mais comme c'est le pouvoir en place, c'est légitime. La seule violence possible, c'est celle des flics. Pour ce qui est de la Commune de Paris, la Commune de Paris a été un formidable laboratoire d'idées nouvelles, de progrès de l'humanité, etc. Non, ça, on a enterré l'idée comme une étoile qu'on met au fond d'un trou. Aujourd'hui, la Commune de Paris est condamnée parce que la gauche est totalement impuissante.
Salut Cédric.
Salut.
Émission aujourd'hui, c'est pas la première qu'on fait, j'espère que c'est pas la dernière qu'on fera, consacrée à la fabrique et à l'enseignement de l'histoire. Et toi, contrairement aux copains André et Daniel, qui n'enseignent plus, tu es toujours professeur d'histoire-géographie. On va donc à nouveau dans cette émission parler de l'enseignement ou du non-enseignement, de ce qu'il est poli d'enseigner, tant dans les médias que dans les programmes scolaires. Napoléon, bien, Commune de Paris, pas bien, mouvement ouvrier, tout ce qui est rouge, pas bien. Je te propose donc, Cédric, qu'on écoute deux sujets choisis par les copains dans le monde diplomatique. L'un sur la mythologie de l'histoire de l'Union européenne, développé par Daniel. Et dans un deuxième temps, cette malheureuse commune qui, depuis des décennies, est quasiment bannie des médias et des manuels scolaires, encore qu'il semblerait qu'elle ait un peu ressurgi dans les programmes. On en parlera en fin d'émission. Mais tout de suite, les copains sur l'Europe et la Commune. Salut Daniel.
Bonjour à tous.
Tu as choisi cet article dans le Diplo du mois de mai. Bienvenue au musée de la propagande européenne. Un article du journaliste Jean-Baptiste Mallet. À Bruxelles, le parc Léopold abrite un musée insolite qui, depuis son inauguration le 6 mai 2017, a déjà attiré 500 000 de visiteurs.
La maison de l'histoire européenne à Bruxelles, c'est-à-dire une des capitales de l'Union européenne. Et dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, on est accueilli par cette formule « Bienvenue à la Maison de l'Histoire européenne », projet du Parlement européen, donc on a toutes les garanties. Au fur et à mesure que nous vous guiderons à travers cette exposition, vous remarquerez, nous ne vous racontons pas l'histoire de chaque nation européenne, mais celle de l'idée européenne. Alors, comment ? Eh bien, en faisant une histoire très particulière qui efface un certain nombre de faits et recompose une image assez idyllique comme l'aboutissement à la fois inévitable et heureux d'une longue histoire difficile. Donc voyons comment nous arrivons à cette situation si harmonieuse et bénéfique pour les citoyens européens.
Est-ce qu'il y a un moment où tu vas dire la guerre, grosse malheur ?
Ils vont le dire, mais dans un autre langage.
Parce que la guerre, grosse malheur, que Union européenne.
Voilà.
Mais sans rappeler que c'est un projet de la CIA. Oh, pardon.
Ils n'ont pas pu dire ça à la maison de l'histoire européenne, parce que ça paraîtrait tout à fait malséant. Voilà. Donc, ça commence avec le siècle des Lumières. Alors, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, il y a eu des projets de construction européenne. Voilà un des extraits pris par Jean-Baptiste Mallet. Pendant la Révolution française de 1789, de simples citoyens renversèrent la monarchie absolue qui les contrôlait depuis des siècles. Leurs nobles idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité furent bientôt souillés par la terreur.
Vilaine terreur, méchant Robespierre.
Voilà, exactement. Une période de violente répression, d'exécution de masse et de purge politique. La guillotine est adoptée par l'État révolutionnaire français pour supprimer ses ennemis. C'est quand même un raccourci historique assez saisissant.
Oui, c'est à ça que ça sert une guillotine. C'est à raccourcir.
Voilà, exactement. Mais bon, alors oui, donc un saisissant raccourci historique, non seulement la guerre grosse malheur, mais la révolution grosse malheur.
Bah oui.
Voilà. Alors au 19e siècle, l'industrialisation, développement du capitalisme industriel, donc l'apparition des théories socialistes et en particulier du marxisme. On apprend que le marxisme serait une réaction passionnée à la révolution industrielle, pas au capitalisme qui exploite les ouvriers, à la réaction donc passionnée, c'est-à-dire pas très rationnelle, à la révolution industrielle, c'est-à-dire un progrès, c'est-à-dire des gens qui refusent le progrès, toi. Hein, c'est pas bien ça. Hein. Pourtant, la révolution industrielle est un épisode au cours duquel les conditions de vie et de travail des ouvriers, qui sont souvent épouvantables, se sont considérablement améliorées avec l'obtention progressive du droit de vote. Pas des conquêtes sociales, c'est le droit de vote qui est... C'est quand même hallucinant comme présentation. Ça, c'est la maison de l'histoire européenne. Alors ne cherchez pas la moindre évocation positive d'une lutte du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, les conquêtes sociales, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, l'autoguide, parce que ça, on vous met ça dans les oreilles avec des écouteurs, et on fait ça dans la langue que vous comprenez, les classes ouvrières n'ont jamais constitué un ensemble homogène. Les membres de la classe ouvrière ne partageaient pas les mêmes caractéristiques qui variaient en fonction des pays. En revanche, les bourgeois, eux, impulsent des changements économiques et politiques et jouent un rôle important dans l'instauration des démocraties modernes. J'ouvre et je ferme les guillemets et j'espère que tout le monde suit cet intéressant cours d'histoire. Par exemple, le fameux musée de la mémoire européenne là, aborde la Seconde Guerre mondiale, donc nazisme égale staliniste. Un grand absent, la bataille de Stalingrad n'est pas nommée. Parce que ça fout un pavé dans la mare de communisme égale nazisme. Donc, hop, Stalingrad est évacué. On nous explique que la période où l'Europe a été coupée en deux, entre l'Europe capitaliste et l'Europe dominée par l'affreux communisme soviétique, il explique que c'est dans des salles sombres où rôde le spectre du communisme. Et puis, après la chute du mur de Berlin, on passe à l'étage au-dessus, dans des salles ensoleillées, où règnent les bienfaits de l'Union européenne post-mur de Berlin, et défile une histoire, je cite, « sans accroc, lisse, consensuelle, riche en progrès économique, en bonheur pour les peuples, en rapprochement des citoyens européens entre eux, etc. etc. » Et d'ailleurs, l'Union européenne reçoit le prix Nobel de la paix en 2012. C'est la fin de l'histoire. Qui dira ce qu'est le prix Nobel de la paix ? Bon, passons. Or, cette maison de l'histoire européenne termine sur l'idée qu'on nous ressasse continuellement. La guerre, grosse malheur, ça, tout le monde en conviendra, et l'Union européenne assure la paix. Et je me permettrai de dire que je pense très exactement l'inverse. C'est pas l'Union européenne qui a fait la paix, c'est la paix qui a permis la construction européenne, puis l'Union européenne à partir du début des années 90. Or, dès qu'elle a existé, l'Union européenne, elle a choisi la guerre. Une trentaine d'années, elle a choisi trois guerres en Europe. Elle a favorisé la guerre civile en Yougoslavie, la guerre contre la Serbie, et ensuite, plus récemment, en 2014, en proposant un accord économique unilatéral avec l'Ukraine, provoquer la guerre d'Ukraine qui n'est encore pas terminée, puisqu'en gros, ça consistait à faire un accord privilégié entre l'Ukraine et l'Union européenne, et à négocier à terme son entrée dans l'OTAN. Comme il y avait une base navale russe en Crimée, de mettre un terme au bail, voilà. Si bien que l'Union européenne a pris le risque de faire des guerres en Europe, sans parler hors d'Europe. Voilà. Donc, bienvenue au musée de la propagande européenne, on pourrait dire peut-être européiste. C'est-à-dire, moi je suis européen, hein. Je ne sacrifie pas à cette lecture très partiale, très incomplète de l'histoire.
C'est pas une nouveauté, c'était déjà dans les programmes scolaires, ça l'est d'ailleurs toujours, hein, dans ce fameux chapitre dans les manuels scolaires qui s'intitule « Les totalitarismes », où on explique aux petits enfants « Hitler et Staline, c'est pareil, que communisme égale nazisme ». C'est d'ailleurs, depuis 2006, une consigne de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, hein, une fameuse résolution 1481, assimilant les ex-régimes communistes d'Europe orientale et centrale au régime nazi. 13 ans plus tard, se référant explicitement à cette résolution 1481 du Conseil de l'Europe, le Parlement de l'Union européenne, dans sa session du 19 septembre 2019, a récidivé, donc, en adoptant une déclaration, ouvrez les guillemets, concernant le pacte germano-soviétique d'août 1939, présenté comme le responsable de la Seconde Guerre mondiale. Fermez les guillemets. Hitler égale Staline, maintenant, c'est, on a légiféré là-dessus. C'est quasiment une loi.
Oui, mais il faut comprendre que c'est indispensable. En fait, c'est pas anecdotique, c'est pas folklorique. Il est indispensable de faire croire aux gens que communisme égale nazisme, fascisme égale communisme, qui est équivalence entre ces régimes, tous rassemblés sous le terme totalitaire, que l'on oppose à la démocratie, avec des guillemets, etc., la grande démocratie libérale, etc. C'est indispensable. Tout découle de ça, y compris l'explication de la guerre. Pourquoi on a eu la guerre? C'est la faute à Staline et à Hitler. Deux fous criminels s'entendent et les victimes sont les démocraties. Bon, c'est une histoire complètement inventée, torturée, déformée complètement, le cul par-dessus tête, etc. Mais c'est indispensable. Aujourd'hui, la Macron, la politique française actuelle, elle est fondée sur ce postulat. C'est un postulat idéologique indispensable. Et si ce truc-là ne tenait pas, comment pourrait-on expliquer la politique aux États-Unis, en Occident, dans tous les pays occidentaux, etc. Communisme égale fascisme, égale horreur. Donc, le communisme n'étant plus possible, à la limite même le socialisme, tu vois, même ce qui peut se rapprocher du communisme, tu vois, le réformisme socialiste, c'est à exclure. D'ailleurs, pourquoi est-ce que la social-démocratie a abandonné absolument tous ses points de programme socialistes? C'est parce que c'était beaucoup trop proche du communisme. On aurait pu faire une comparaison, on aurait pu imaginer par exemple que le communisme, le PCF, etc., disparaissant, le Parti Socialiste reprendrait à son compte, tu vois, une partie de ce programme de gauche, qui est un programme socialiste, favorable aux travailleurs, aux gens vulnérables, aux petites gens, etc. Pas du tout. La disparition du communisme dans ces conditions-là et l'adoption du postulat communisme égale fascisme, le Parti Socialiste s'est trouvé dégagé de toute obligation, de toute responsabilité. On liquide absolument tout ce qui était à gauche. On garde juste le folklore sur les questions de société, hein, de façon à se donner une petite coloration de gauche, quoi, etc. Mais tout est abandonné. En fin de compte, l'adoption de ce postulat Staline égale Hitler, communisme égale fascisme, ça vide la totalité de la gauche de son contenu de gauche. Il ne reste plus que quoi ? Des libéraux contre des libéraux. Un petit peu plus libéral, un peu moins libéral. De toute façon, t'es dans le cadre indépassable, comme disait la mère Thatcher, cadre indépassable de la démocratie de marché, quoi, libérale, capitaliste, etc. Ensuite, là-dessus, on fait des petits aménagements, hein, la couleur des chiottes, etc., la moquette dans le... Mais rien de changé. Ce qui fait que on se pose la question, pourquoi il n'y a plus de gauche aujourd'hui ? Pourquoi la gauche est-elle si faible et dispersée? Parce qu'elle existe, la gauche, hein, bien sûr. Mais regarde, même un type comme Mélenchon, qui est un social-démocrate, c'est pas un bolchevique assoiffé de sang, hein, ce n'est qu'une variante de social-démocratie, c'était un copain à Mitterrand, après tout, hein. Eh bien, il apparaît comme un bolchevique fanatique. On a tellement, si tu veux, fait accepter à l'opinion que le communisme, ou tout ce qui ressemble, ou ce qui s'approche du communisme, est une chose horrible, qu'il est plus possible de construire une gauche actuellement. Moi, je pense que l'inhibition intégrale de la gauche aujourd'hui est liée à cette adoption par les opinions de l'analogie communisme-fascisme. Voilà.
Philippe, la description du caractère de gauche des sociaux-démocrates, enfin du Parti Socialiste, ressemble à celle du couteau de Georg Christoph Lichtenberg, le couteau sans lame et dépourvu de manche.
Vous êtes de mauvais esprit, 2022 vous démontrera que nous sommes en démocratie, puisque vous pourrez choisir entre le fascisme de Le Pen ou celui de Macron, était plus light, plus moderne.
Mais oui, c'était épouvantable. Arrête, arrête, je suis désespéré.
Philippe.
Bonjour.
C'est l'heure de retrouver ta pointilleuse remarque sur les médias. Il est question de cette vilaine commune dont on parle le moins possible à l'école et dans les médias.
Oui.
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
Le vendredi 23 avril, au journal télévisé de France 3 de 19h30, un sujet s'intitulait « Histoire de points, autopsie d'un costume au temps de la Commune de Paris » et il était présenté comme suit. Le journaliste. Dans les réserves du musée de la mode de la ville de Paris, 300 000 pièces sont conservées dans ce lieu à l'abri de la lumière, dont plusieurs centaines de vêtements à haute valeur historique. On a à M. Alexandre Sanson, conservateur de collection au palais Galliera. On a de la chance de conserver des vêtements portés par Napoléon Ier, Marie-Antoinette, son fils Louis XVII, le Dauphin. On a également l'habit de Musset. Tous ces vêtements sont compris comme des vêtements reliques. Le journaliste. Notre mystérieuse enveloppe contient un costume trois pièces en laine d'apparence plutôt ordinaire. Son histoire l'est moins. Il appartenait à Louis-Bernard Bonjean, président provisoire de la Cour de cassation en 1871. Ce catholique conservateur est mort fusillé. Un bruitage fait entendre des coups de feu en même temps qu'on voit un photomontage de l'exécution le 24 mai sur ordre de la Commune de Paris, une insurrection populaire. Sur ce photomontage, il est entouré d'ecclésiastiques exécutés le même jour. Sa famille a récupéré son corps et conservé ce costume vieux de 150 ans. Le docteur Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue et anthropologue. En fait, ce qui est intéressant avec ce vêtement, c'est qu'on va le faire de la balistique et de la médecine légale sans cadavre. Journaliste. Ce médecin légiste et ses cinq étudiants ont procédé à une autopsie peu ordinaire. Médecin légiste. Ça peut être autant les traces biologiques, coulures de sang, coulures d'urine, le cerveau aussi lorsque la boîte crânienne a explosé et que les témoignages historiques qui nous raconte qu'il s'est roulé par terre plusieurs fois de suite. Les scientifiques ont trouvé 9 trous dans le costume. Avec des baguettes, ils reconstituent la trajectoire des balles. Quels ont été les organes touchés ? Est-ce que la première salve était mortelle ou est-ce que c'était la deuxième ? Eh bien, reconstituer exactement la mort d'une de ces victimes de la Commune, ça permet de rendre cet événement historique beaucoup plus proche de nous. Étudiants. Journalistes. Grâce aux traces de sang et aux impacts, ils ont reconstitué les gestes du magistrat et conclu qu'il y avait eu plusieurs salves. 6 balles, ici en vert, alors on voit un corps schématique sur un écran, sont entrées par devant lors de la première et au moins 4 ont traversé le corps et sont ressorties. Animés par un sentiment de vengeance, les communards ont mitraillé cet homme de loi, symbole du pouvoir en place, 150 ans après, son costume a parlé avant de regagner les tiroirs de l'histoire de France. Remarque 1. Cette reconstitution permet de saisir ce qui se passe face à un peloton d'exécution. L'épouvante des suppliciés qui peut les amener à se souiller juste avant de mourir et les détails souvent atroces car les soldats ne visent pas toujours le torse. Ils visent ou atteignent sans le vouloir la tête. Remarque 2. Néanmoins, le principal caractère de ce sujet n'était pas son caractère scientifique mais son caractère idéologique. En effet, On commémore cette année le 150e anniversaire de la Commune de Paris qui eut lieu du 18 mars au 28 mai 1871 et le 23 avril, on était pratiquement au milieu des deux mois de ce 150e anniversaire. Or, si ce souvenir est aussi vivant, aussi vivace, c'est parce qu'il constitue toujours un événement clivant entre la droite et la gauche. Il est aussi clivant que le fut la période de la Convention montagnarde en 1792-1794, ou celle du Front populaire 1936, ou celle de mai 1968. Remarque 3. Ce clivage s'est manifesté à Paris le 3 février 2021, lorsqu'un élu LR de la capitale, le conseiller Rudolphe Granier, a déclaré tout de go que sa formation s'opposerait à une subvention municipale à l'Association des Amis de la Commune de Paris, affirmant que cette association, coprésidée par un ancien dirigeant communiste, glorifiait les événements les plus violents de la commune. Il évoquait aussi les incendies de la commune qui avaient ravagé des pans entiers de la capitale. Pour lui, la maire socialiste Anne Hidalgo annonçait à ce sujet une série de contre-vérités historiques pour tenter de ressouder socialistes, communistes et écologistes en vue de son projet présidentiel. Et il terminait en disant que ce projet rassemblerait certainement moins de personnes que les 10 millions qui ont participé à la souscription nationale pour l'édification du Sacré-Cœur dans les années 1870-1880. Remarque 4. On notera qu'Emmanuel Macron, en 2018, avait déclaré que Versailles, c'était là où la République s'était retranchée quand elle était menacée. C'est à Versailles que s'était replié le siège du gouvernement, présidé alors par Adolphe Thiers, et c'est pour cela que furent appelés Versaillais les soldats, mais surtout les membres du gouvernement, qui fin mai 1871 écrasèrent la commune. Au passage, ce nom de ville, dans la conscience de gauche, a été frappé du même opprobre, du même discrédit que celui de Vichy. On en conclura ce qu'on voudra sur le positionnement politique d'Emmanuel Macron.
Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. La vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Remarque 5. On notera aussi que ce fut à Versailles que, dès le 19 septembre 1870, s'installèrent le gouvernement et l'état-major allemand. Ce fut donc de Versailles que les généraux allemands menèrent toute la guerre contre la France. Ce fut même dans la galerie des glaces du palais de Versailles que le 18 janvier 1871 fut proclamé l'Empire allemand, dont le nouvel empereur fut le roi de Prusse Guillaume Ier, qui conserva son ancien titre et ses prérogatives de roi de Prusse. Les Allemands ne quittèrent la ville que le 7 mars 1871, 11 jours seulement avant la proclamation de la Commune de Paris. Pour reprendre la règle des trois unités du théâtre classique, qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin du jour le théâtre rempli, on pourrait dire que le passage de témoin des Allemands aux Versaillais respecta presque cette règle immortalisée par Boileau. Unité de temps, non pas un jour, mais 9 mois, du 19 septembre 1870 au 28 mai 1871, unité de lieu. Versailles, siège du gouvernement de l'état-major allemand, puis siège du gouvernement de Thiers. Unité d'action. De septembre 1870 à mai 1871, écrasement militaire de la France par les Allemands, et de mars 1871 à fin mai 1871, écrasement militaire de la Commune par les Versaillais, la concrétisation du passage du témoin étant marquée par la libération par Bismarck, à la demande de Thiers, de 60 000 prisonniers français qui s'ajoutèrent aux militaires déjà disponibles pour réprimer la Commune. Unité d'action supplémentaire. La punition infligée par les Allemands à la France après la défaite fut la cession de l'Alsace et de la Moselle et le versement d'une indemnité de 5 milliards de francs. Or, la punition infligée aux communards après la semaine sanglante fut la multiplication des exécutions sommaires des tribunaux militaires et la déportation en Nouvelle-Calédonie. Remarque 6. On arrive au point principal qui est l'aspect idéologique de ce reportage. En effet, il est vrai que plusieurs notables, ecclésiastiques, militaires, magistrats, furent exécutés par la Commune. Il me souvient que dans mon enfance, on faisait grand cas du général Thomas et de Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, fusillé par la Commune. Pour pasticher Stéphane Bern, un prêtre, quelle horreur ! Et au total, une centaine d'hommes considérés comme des suppôts de Versailles furent fusillés ou exécutés sommairement ou lynchés, pas toujours d'ailleurs sur ordre de la Commune. Mais cette centaine de morts, qui sont toujours sans mort de trop, sont sans commune, c'est le cas de le dire, sans commune mesure, avec les 5 700 à 20 000 morts, selon les sources, de la répression versaillaise. Au passage, cette disproportion fait penser aux événements de Sétif et Guelma le 8 mai 1945. Ce jour-là, les indépendantistes algériens tuèrent une centaine de colons français. Mais les jours suivants et les semaines suivantes, la répression menée par l'armée française et des civils constitués en milices fit de 3 000 à 30 000 morts parmi les Algériens musulmans. Remarque 7. On pouvait dès le début s'attendre à la tonalité du reportage. Le musée Galliera, en effet, est le musée de la mode. Il recèle des vêtements de prix majoritairement portés par des classes privilégiées. De fait, le conservateur Alexandre Sanson cite Napoléon, ainsi que la reine Marie-Antoinette et son fils, emblème de l'Ancien Régime, voire de la contre-révolution. Ce tropisme contre-révolutionnaire est attesté par la remarque du conservateur Louis XVII, le dauphin. Or, il n'y eut jamais en France de roi nommé Louis XVII, puisque la royauté fut abolie le 21 septembre 1792, qui marque le début de l'an 1 de la République. Décidément, ce monsieur Alexandre Sanson est conservateur à tous les sens du terme. Remarque 9. Dans le reportage, il est dit « animé par un sentiment de vengeance ». Les communards ont mitraillé cet homme de loi, symbole du pouvoir en place. Cela fait apparaître les communards comme de fonciers sanguinaires qui n'auraient été motivés que par leur désir de s'en prendre au pouvoir en place, comme si le pouvoir en place n'avait rien eu à se reprocher. Or, ce pouvoir en place, du Second Empire comme de la République conservatrice qui suivit, pouvait se reprocher beaucoup de choses. Au gouvernement impérial, les communards pouvaient d'abord reprocher les conditions de sa naissance, celles du coup d'État du 2 décembre 1851, puis ses diverses interventions extérieures, dont certaines furent sanglantes. Par exemple, celle de Crimée, 95 000 morts français, celle de la campagne d'Italie de 1859, d'autres incohérences avec la politique antérieure, le soutien au pape contre les Piémontais, d'autres carrément désastreuses, l'expédition du Mexique. Mais c'est bien entendu la guerre de 1870 qui pouvait le plus lui être reprochée, d'abord d'avoir provoqué, par l'état d'impréparation et de désorganisation chronique de l'armée française. Enfin, par le maintien du système du remplacement dans la conscription qui permettait aux enfants de bourgeois et de paysans aisés de payer des Français plus pauvres pour qu'ils aillent se faire tuer ou estropier à leur place. Les Français des classes populaires pouvaient reprocher au régime de Napoléon III une bonne part des morts de Wissembourg, de Woerth, de Spicheren, de Borny, de Mars-la-Tour, de Gravelotte, de Sedan, sans compter les morts de toutes les guerres antérieure. Après, ce que ces mêmes classes populaires, et plus encore les plus engagées politiquement, purent reprocher à l'Assemblée le 8 février 1871, fut d'avoir été majoritairement conservatrice, voire monarchiste, et d'avoir voulu la paix à tout prix pour protéger ses affaires et ses propriétés. Les militants et ouvriers qui fondèrent la Commune pouvaient donc estimer que le gouvernement tiers, émanant d'une France conservatrice et paysanne, trahissait la patrie. Remarque 10. Le sort du malheureux Louis-Bernard Bonjean est certes navrant, mais au moins sa famille parvint-elle à récupérer son corps et son vêtement. Mais que penser à cette aune des communards tués par les Versaillais? Combien de leurs proches récupérèrent-ils leur corps? Combien furent-ils jetés à la fosse commune? La chaîne France 3 va-t-elle consacrer une émission à la semaine sanglante, dernier jour des combats, au cours desquels les Versaillais écrasèrent la commune? Y apprendra-t-on, par exemple, que la commune avait prévu, entre beaucoup d'autres projets, la séparation de l'Église et de l'État, l'enseignement laïque, le début de l'instauration de la journée de 10 heures de travail, or ça peut paraître beaucoup, mais les ouvriers travaillaient bien plus, l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries, la mention d'un salaire minimum dans les appels d'offres des marchés publics, l'égalité homme-femme, le début de l'autogestion, etc. Dernier point. J'évoquais plus haut la question du Sacré-Cœur. Pourquoi cet édifice est-il associé à la commune? Non parce que, comme on l'a parfois dit, il aurait été bâti en expiation des crimes de la commune ou pour remercier le ciel d'avoir empêché la commune de détruire Paris, mais pour des raisons qui, au fond, s'y ramènent. D'abord parce que l'église fut construite en réponse à un désir d'expiation pour toutes les avanies infligées au très réactionnaire pape Pie IX. Puis au fait que la basilique s'élève sur la colline de Montmartre, d'où partit précisément la commune, comme s'il s'agissait que le monument efface l'événement. Puis que la déclaration d'utilité publique autorisant sa construction fut votée par une majorité aussi monarchiste que conservatrice. Puis qu'elle fut conçue dans un style romano-byzantin, style pastiche, comme en connut à foison le XIXe siècle, tout type de style résolument tourné vers les monuments du passé, considérés comme des modèles insurpassables, et donc susceptibles de plaire à des élus conservateurs en 1871 comme en 2021.
Merci Philippe. On l'a dit dans des émissions précédentes, hein, il y a des choses qu'il est poli de commémorer. Napoléon, bien, commune, pas bien. Daniel.
Oui, Pierre Nora, qui est un des maîtres de l'historiographie française et un directeur d'édition d'ouvrages historiques extrêmement influent en France.
Oui, c'est l'historien en chef de la bourgeoisie, quoi, hein, celui qui dit ce qu'il faut penser et enseigner.
Alors c'est peut-être pour ça qu'il a déclaré qu'il ne fallait pas commémorer la Commune, parce que cela divisait la France et les Français.
On peut commémorer Napoléon qui a rétabli l'esclavage, ça divise personne. André.
Sur ce qu'il faut dire de la Commune et de ce qu'on dit de la Commune et de la polémique qui est née autour de sa commémoration éventuelle. Bon, cette polémique, elle naît dans un certain contexte de quasi-anéantissement de la pensée de gauche en France. Si on avait eu une gauche digne de ce nom, un parti communiste encore brillant, etc., et dans la France d'aujourd'hui, et aussi une opinion publique avertie, au moins dans sa masse, avertie de l'histoire, avertie des traditions, avertie de l'héritage, on n'aurait pas eu cette chose affligeante qui est l'enterrement de cet événement. Bon, la gauche, elle ne peut pas imposer à une opinion publique aussi abrutie une commémoration de la Commune, c'est pas possible. Non, c'est horrible. Ça a été violent. Je reviens sur le papier de Daniel tout à l'heure. Je fais une petite citation de la propagande européiste du musée de Bruxelles. Ils disent « Le raisonnement que les objectifs idéalistes peuvent justifier des moyens brutaux a été utilisé plusieurs fois au cours de l'histoire européenne, notamment par l'état policier de l'Union soviétique sous Joseph Staline et par le régime nazi en Allemagne. » C'est-à-dire que c'est une condamnation de toute violence dans l'histoire.
Sauf celle de la bourgeoisie.
Celle-là, elle peut avoir des justifications. En revanche, au nom d'idéaux de liberté, de justice sociale. Non, 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 non. Rien ne justifie la brutalité. La Commune de Paris, vu l'opinion publique en France aujourd'hui, la Commune de Paris, elle est condamnée. Elle a été une défense forcément violente contre une violence qui était faite au peuple de Paris. La Commune de Paris a été contrainte d'utiliser la violence contre un régime conservateur, celui de Thiers, qui a recruté une armée de ruraux pour massacrer les communards qui faisaient peur à la bourgeoisie, aux possédants, etc. Bon, violence contre violence en quelque sorte. C'est condamné. Ah ben non, ils sont pas laissés massacrer, donc ils sont condamnés. Hein. Ils se sont défendus, ils sont donc coupables. Parce qu'aujourd'hui, la violence, la bourgeoisie a le monopole de la violence. Regarde ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, quoi. On n'a pas regardé ce que voulaient les gilets jaunes, contre quoi ils se sont battus, pourquoi ils se sont manifestés. Non, ils ont été violents, donc ils sont condamnés. Au besoin, on oublie la violence policière, une grande brutalité contre les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, ou les black blocs, les anarchistes, etc., sont condamnés parce qu'ils utilisent la violence. Seul le pouvoir en place peut utiliser la violence, y compris de façon complètement abusive. Mais comme c'est le pouvoir en place, c'est légitime. Les gens d'opinion, les gens des médias, etc., adoptent cette attitude-là. La violence est condamnée. La seule violence possible, c'est celle des flics. Alors, bon, pour ce qui est de la Commune de Paris, la Commune de Paris a été un formidable laboratoire d'idées nouvelles, de progrès de l'humanité, etc. Non, ça, on a enterré l'idée comme une étoile qu'on met au fond d'un trou, comme disait Jean Ferrat. Mais c'est justifié. Aujourd'hui, je me répète, mais la Commune de Paris est condamnée parce que la gauche est totalement impuissante.
Le bilan de la Commune, le laboratoire d'idées nouvelles, non seulement sur le plan social, sur le plan du féminisme, la première fois que le terme de séparation de l'Église et de l'État est employé dans l'histoire de la France, c'est la Commune de Paris qui vote la séparation à l'unanimité. 3 avril 71. Mais en dehors de ces idées nouvelles, la Commune est aussi un réflexe patriotique d'un peuple qui refuse la trahison de ses élites.
Philippe, remarquez à quel point les écrasements de révoltes populaires sont peu connus. Et je vais en donner un exemple. Au début du XVIe siècle, la France a connu une des plus grandes guerres de 65 ans, les guerres d'Italie, qui ont été qu'une seule de 1494 à 1559. 65 ans de guerre. Hein. Et les Français, ce qu'ils retiennent, ça va être Marignan 1515, mais peu d'Européens connaissent deux des plus épouvantables massacres dans ces débuts du XVIe siècle, l'écrasement de la révolte hongroise de Georges d'Ocha, qui était un petit noble, qui menait donc une révolte paysanne, parce que les nobles hongrois, pour repousser les Turcs, faisaient appel aux paysans. Une fois que les paysans avaient combattu, repoussé les Turcs, ils avaient dit « Bon, bah, écoutez, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini, les Turcs, plus de danger. » Et les autres, ils avaient les armes, ils disaient « Non, non, on ne rentre pas chez nous. » Ils se sont révoltés, et le chef, Georges d'Ocha, en punition, il était assis, attaché sur un siège en fer, au-dessous duquel on a mis le feu et on a obligé ses lieutenants à manger sa chair. Bon. 10 ans plus tard, en 1525, c'est la guerre des paysans. Luther avait demandé aux nobles allemands de réprimer les paysans. Le duc de Lorraine a écrasé près de Saverne une révolte de paysans et cette répression des paysans allemands, c'est une répression énorme, mais de laquelle les Français, peut-être même les Allemands, connaissent très peu de choses. Et pourtant, ces guerres sociales ont fait quelquefois beaucoup plus de morts que n'en ont fait des guerres étrangères.
La répression de la Commune par les Versaillais a tué infiniment plus que la fameuse terreur de 93 à Paris.
Était beaucoup plus rentable. La terreur de Paris, donc, elle a duré un an et demi. La semaine sanglante, elle a duré, comme son nom l'indique, une semaine. Mais en rendement, la répression de la Commune de Paris a été beaucoup plus forte.
C'est plusieurs dizaines de milliers de morts. Hein. Alors les chiffres varient, hein, entre 15 et 30 000, sans compter les arrestations et déportations, c'est 40 000. Hein, 40 000 arrestations et déportations.
Un autre point, Philippe, ce parallèle qui semble tellement évident quand on l'a sous le nez, c'est le choix de ces six étranges défaites, comme l'étrange défaite de 1870 ressemble quand même incroyablement à l'étrange défaite de 1940. Bon, ce qu'on va surtout pas expliquer à la télé et encore moins dans les manuels scolaires, parce qu'on a un problème en France, c'est que le peuple français, il est quand même parfois assez remuant et que la bourgeoisie française peut pas toujours s'appuyer dessus. Et quand les riches chez nous ont peur pour le coffre-fort, ils vont pleurer dans des bottes allemandes, prussiennes ou des Rangers américains. Ou les deux en même temps d'ailleurs, hein, maintenant c'est pas incompatible avec notre merveilleuse Europe, tout ça, pleurer dans les bottes des Allemands, en fait c'est comme pleurer dans les Rangers des Américains, ou le contraire.
Pourquoi les classes dirigeantes françaises, fin 18e jusqu'à nos jours, 19e, 20e siècle, ont une telle admiration pour les classes dirigeantes allemandes? On sait que les classes dirigeantes françaises ont une admiration pour les classes dirigeantes allemandes, qui ont réussi d'ailleurs une sorte d'association entre vieille noblesse militaire, foncière, milieu industriel et financier, ce qui a été beaucoup moins réussi en France, en tous les cas moins tôt et moins parfaitement fondu. Eh bien, cette classe dirigeante allemande composite, elle a réussi à mater les révoltes populaires, de la guerre des paysans à la répression du mouvement ouvrier
spartakiste.
Elle a réussi ça. Et ce que n'a pas, au fond, aussi bien réussi la classe dirigeante française, et elle nourrit une sorte de sentiment d'infériorité et d'admiration. Et, au fond, à quoi sert l'Union européenne pour les classes dirigeantes françaises ? À être le levier qui crée la force qu'elles n'ont pas un nouveau rapport de force contre les revendications populaires, salariales, ouvrières, etc., qui crée un rapport de force favorable dans le cadre de l'Union européenne, alors que dans le cadre national, les classes dirigeantes se sont appuyées la Révolution française, les révolutions suivantes, la Commune de Paris, 36, la Résistance, et même, dans une certaine mesure, l'élection de Mitterrand en 81, et il y a un certain nombre de lois quand même sociales. Hein. Au fond, les classes dirigeantes françaises ont, dans le cadre hexagonal, toujours cette trouille d'un rapport de force pas suffisamment favorable pour eux. Eh bien, c'est le levier européen qui leur donne un rapport de force favorable.
En fait, l'Europe sert à ça. Dès le départ, elle sert à ça. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur le musée de propagande européenne, il s'agit d'enfoncer le clou, hein, à fond. Hein. Non seulement d'obtenir le contrôle, la maîtrise, la domination sur les classes ouvrières, les classes exploitées, etc., les salariés, mais en même temps obtenir leur assentiment, obtenir, il faut que ça soit justifié, légitimé. Bon, la propagande coule à flot. Hein.
La bonne nouvelle dans tout ça, dans ce marécage de désespoir, c'est que la Commune de Paris, comme la Résistance et compagnie, ils en ont toujours peur. Hein.
Les journalistes, policiers, marchands de calomnies ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte.
Cédric, on se retrouve après les exposés de Daniel et de Philippe, donc sur l'enseignement de l'histoire. En l'occurrence, là, il y a deux exemples qu'on a développés, enseignement de l'histoire de notre belle Union européenne, si démocratique. Et on vient parler de la Commune, de sa non-commémoration, de son non-enseignement. D'ailleurs, toi, en tant qu'élève, on t'a parlé de la Commune à un moment pendant ton parcours scolaire ?
Non, j'en ai aucun souvenir particulier. Quand c'est pas dans le programme, on n'a pas lieu et ni le temps de le faire.
Elle serait malgré tout réapparue un petit peu dans les manuels scolaires, la Commune de Paris, parce que justement on approchait du 150e anniversaire.
Alors le bulletin officiel spécial numéro 1 du 22 janvier 2019 a réintroduit la Commune dans l'enseignement en classe de première, puisque les programmes de première commencent en 1789 et s'achèvent au lendemain de la Première Guerre mondiale. Autant dire qu'on couvre un long 19e siècle, la Révolution française, l'Empire, la Restauration, la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République, la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Ouf. Pour traiter l'ensemble de ces sujets, nous disposons d'un volume horaire qui oscille entre 44 à 50 heures. Interrogation comprise, sachant que les heures font 55 minutes et non pas une heure, ça réduit d'autant plus le volume horaire. Si bien que la Commune de Paris se retrouve comprise dans un chapitre qui s'appelle « La Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial », à traiter en 11 à 13 heures. Hein. Et donc il y a trois sous-chapitres. La mise en œuvre du projet républicain, permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914, et métropole et colonie. Combien de temps il vous reste pour traiter la Commune ? Pas d'indication précise, mais au-delà d'une demi-heure, très clairement, vous vous mettez hors jeu. Il va falloir sacrifier autre chose. Même avec la meilleure volonté du monde, ne comptez pas y passer plus d'une heure. D'autant plus que cette année de première est sanctionnée par deux examens qui se déroulent au mois de janvier puis au mois d'avril, en temps normal, ils ont été annulés pour cause de Covid. Avoir ces échéances qui tombent en milieu d'année, donc pose des problèmes en termes de formation et surtout pose des problèmes en termes de coordination entre collègues puisqu'on doit présenter un sujet commun. Et donc ça suppose qu'on avance tous un peu au même rythme. Donc on ne peut pas se permettre des pas de côté. Si vous vouliez mettre 2 à 3 heures pour traiter la Commune, il est fort probable que vous mettiez en porte-à-faux avec vos collègues. Si on regarde dans la Banque nationale de sujets, il n'y a qu'une étude de document qui est consacrée à la Commune de Paris, un texte de Louise Michel. D'ailleurs, Louise Michel, pendant la Commune de Paris, fait partie des PPO, points de passage et d'ouverture, que nous avons obligation de traiter dans nos programmes.
Tu nous avais déjà expliqué que pour expliquer la Révolution française, en gros, tu avais 5 heures, dont la moitié consacrée à cette brave Manon Roland, qui n'était pas hyper révolutionnaire, d'après ce que j'ai compris.
Oui, mais c'était pas son caractère premier. Donc, Louise Michel, ça balance un petit peu.
André nous le racontait dans une émission précédente, hein, si aux 7% de la classe d'âge 1930, on pouvait expliquer ce qu'était la Commune, il y avait 10 pages dans le manuel scolaire Mallet et Isaac de 1930. André avait grosso modo recensé que la Commune, elle apparaît encore en 1976 dans un manuel sous un chapitre intitulé « Les années terribles », hein, où donc c'est surtout la guerre de 70 qui est mise en avant, et la Commune qui en serait peut-être une fâcheuse conséquence. Et puis, pouf, la Commune disparaît des manuels scolaires. Et puis quand même, à l'orée du 150e anniversaire, elle a ressurgi. Pour qu'on en dise quoi ? Parce que après tout, c'est bien beau d'y consacrer 20 minutes à la Commune, mais encore, je pense encore à Emmanuel Macron qui, en recevant Vladimir Poutine à Versailles, a expliqué au chef du Kremlin que c'était là que la République française en danger avait défendu ses valeurs. Tu nous as amené un manuel scolaire, qu'est-ce qu'ils en disent de la Commune ?
La Commune de Paris est réduite à un paragraphe d'une dizaine de lignes, inclus dans le grand 1 qui s'appelle « La République des royalistes 1870-1879 ». Ça fait 10 lignes, c'est très factuel. Hein. Alors apparaît un gros mot « République sociale ».« République sociale, régime visant le bien-être de chacun et l'égalité économique entre tous ».
Pas mal déjà.
Donc ça fait une demi-ligne. Ensuite, ça raconte la semaine sanglante. Sans donner les chiffres de morts, hein, il y a marqué que Thiers envoie plus de 100 000 hommes pour reprendre le contrôle de la ville. Les troupes répriment l'insurrection parisienne avec une grande violence. C'est la semaine sanglante. Point barre.
Mais il n'y a pas de bilan. On précise bien qu'on envoie 100 000 hommes sans expliquer qu'ils assassinent 20 000 personnes.
Ça fait un bon ratio, hein, l'air de rien.
C'est qu'on ne peut pas faire grâce à ce manuel scolaire.
Les autres sont du même acabit. On n'a pas choisi le mauvais manuel scolaire. Les autres sont du même acabit.
Ça y est, j'ai trouvé la phrase. La Commune entend constituer une armée populaire et fonder une république sociale en bleu, gras, point. Voilà, Louise Michel, star de la Commune, une phrase. C'est pas mal, une phrase, déjà.
Mais c'est le problème, c'est qu'on veut parler de tout, on balaye tous les sujets, mais tout est mis à la même échelle. On papillonne, on survole, on donne quelques repères chronologiques, complètement désincarnés, malgré les fameux PPO. Hein. Ça ne signifie rien, et ça n'aboutit à rien.
Tu fais du De Gaulle, là.
Mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien.
Et oui. Là, vous voyez, tout est mis à même niveau, tout est traité de la même façon. Vous faites 20 minutes de Commune, 30 minutes de permanence et mutation de la société française, et finalement, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça ? Eh bien, pas grand-chose. On a là, je pense, l'idée dominante, hein, du macronisme comme du reste, c'est-à-dire que c'est une espèce de grande lavasse sans odeur ni goût. Et que vont retenir les gamins de ça? Bah, pas grand-chose. Et là, il faut toute la personnalité du prof qui va faire des choix, valoriser des éléments. Par exemple, si je reprends ce programme, les aspects socio-économiques qui sont quand même majeurs pour comprendre le 19e siècle, les grandes mutations économiques qui vont bouleverser la société, l'urbanisation, la naissance du monde prolétarien, etc. C'est résumé à chapitre 2, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France sous le Second Empire. D'accord? Donc le Second Empire a tout inventé, c'est lui qui a modernisé. Pas de mise en perspective historique de ce mouvement qui aurait dû, vous voyez, un espèce d'aspect d'encouragement de l'économie par Napoléon III, et que voilà, ça a quelques conséquences sociales. Alors il est gentil, il donne le droit de grève quand même, parce qu'il est quand même sympa. Ça n'a pas de sens, quoi. Et nous, en tant qu'enseignants, avec tout l'esprit critique que l'on peut avoir, on est coincé par la lourdeur des programmes, on est coincé par la mise en place de ces examens qui empêchent notre véritable liberté pédagogique, qui empêchent de traiter les choses correctement. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner si les gamins ne comprennent rien aux questions sociales, mais ne comprennent rien non plus à la colonisation, parce que là, à la colonisation, vous voyez, il faut faire métropole et colonisation, 4 heures maximum, ça doit être plié. Comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose aux phénomènes coloniaux? Comment voulez-vous introduire de la nuance, de la réflexion, pour ne pas tomber dans des schémas hyper simplifiés que eux-mêmes vont caricaturer, parce que forcément ils peuvent pas tout prendre, donc ils caricaturent de la caricature de la caricature. À la fin, faut pas s'étonner que tout le monde raconte n'importe quoi, que personne ne comprenne rien aux enjeux de notre société contemporaine, sur les enjeux économiques et sociaux. Comment voulez-vous qu'ils comprennent la loi de séparation de l'Église et de l'État? On l'expédie pareil en une demi-heure. Alors que là, on a des enjeux centraux sur qu'est-ce que la laïcité, quelle est la place de la religion dans la société. Ces questions qui nous préoccupent aujourd'hui, elles préoccupaient les Français de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Sauf qu'en une demi-heure, qu'est-ce que vous voulez réfléchir? Vous leur assénez un discours, voilà...
Sois Charlie et tais-toi.
Non, mais qui leur permet de faire leurs petits commentaires de documents à la con, d'avoir leurs notes, même chez les gamins qui vont obtenir de très bonnes notes. Est-ce qu'ils en ont retiré quelque chose en tant que citoyens? Est-ce qu'ils n'ont pas juste coché une petite case? Ah bah c'est bon, c'est bien, je vais avoir mon bac. Et... Ce qui est compréhensible pour eux. Enfin, je veux dire, ouais, on aurait 15-16 ans, on pense d'abord à avoir son bac. Enfin, sauf qu'il faut nous donner des marges de manœuvre horaires, programmatiques, qui nous permettent d'insister sur des points qui nous semblent fondamentaux pour ne pas seulement être de bons petits fonctionnaires qui aident les gamins à passer leurs examens, mais être des gens qui... mettre le doigt sur des problèmes sociétaux, politiques majeurs et qui leur permettent d'être de vrais citoyens. Sinon, à 18 ans, ils vont se retrouver avec un bout de papier à mettre dans l'urne et puis ça va être celui qui a la plus belle cravate ou celle qui a le plus beau sourire.
Même plus insidieux que ça, puisque dans les manuels scolaires, depuis quelque temps, il y a un chapitre qui s'intitule « Les totalitarismes », où on t'explique que Hitler, c'est pareil que Staline, donc que nazisme, c'est pareil que communisme. Hein, c'est écrit dans le livre d'école, donc c'est que ça doit être vrai. Comment en vouloir à des jeunes gens d'aujourd'hui, voire même à leurs parents, de se dire « Ah, bah, on a essayé Hollande, donc soi-disant la gauche, on a essayé Sarkozy, donc la droite. » C'est pareil, ce qui n'est pas faux. On va donc essayer un truc nouveau quand on t'a pas enseigné, en fait, que le fascisme a été au pouvoir en France entre 40 et 44. Oui, t'as l'impression que c'est nouveau.
Par exemple, un truc incroyable. Jamais on ne nous fournit la liste des personnes qui rédigent les programmes. Moi, plusieurs fois, j'ai demandé « Mais qui ?» Alors, c'est pas pour les tondre le jour de la libération, quoique des fois, il y a des envies. Mais qu'on nous dise, mais qui est responsable de ça?
C'est peut-être un algorithme.
Là, il faut des responsables. Vous avez pondu tel truc, tel sujet. Pourquoi vous avez fait ça? On nous présente le programme tout fait. On fait des remarques. Il y a plein de collègues qui disent, non, mais ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Et puis, généralement, vous avez l'inspectrice, en l'occurrence, qui vous fait très poliment, vous voyez. Et puis, à la fin, pot-zop, quoi. Donc on vous a écouté, hein, mais à la fin, ça n'a aucune incidence.
Oui, puis à partir du moment où l'enseignement d'une histoire volontairement frelatée et falsifiée à force de loi, ce que disait le texte européen de 2006, les ex-régimes communistes d'Europe orientale et centrale sont assimilés au régime nazi. C'est à force de loi maintenant. Communisme égale nazisme. le politique, là, a interféré, comme on l'a vu d'ailleurs récemment, hein, au sujet de la colonisation, hein, une page sur le droit de portage et l'esclavage, et puis une page pour le docteur Schweitzer. Hein, c'est aussi passé par la loi, la présentation aussi positive du colonialisme.
Quand on traite la Seconde Guerre mondiale en tronc commun, en terminale, on a 6 heures. Qu'est-ce que vous voulez que des jeunes gens comprennent à un phénomène aussi complexe, aussi ample, en 6 heures? Mais ça nous interdit toute forme pédagogique qui permettrait, vous voyez, de mettre en jeu, au-delà du cours magistral, de mettre en jeu des cours dialogués, des rencontres avec des acteurs extérieurs qui leur permettent de justement s'ouvrir l'esprit, de réfléchir. Là, vous leur bredouillez 3 dates. Alors effectivement, il y a cet hideux accord germano-soviétique. Sauf que même si vous, au détour d'une phrase, vous essayez de nuancer le truc, enfin d'expliquer, comme on l'a déjà fait dans cette émission, je ne vais pas reprendre la démonstration.
Oui, de dire qu'avant le pacte de non-agression de 1939, il y a le pacte que France et Angleterre signent avec les nazis en 1938.
Et vous leur dites ça, et puis voilà, bon, ça fait une phrase, voilà, voilà, je nuance un peu le truc. Ça ne sert à rien. Ce programme de tronc commun, première terminale, qui traite donc de 1789 à nos jours, au mieux ne sert à rien, au pire introduit des caricatures de pensée, des références fallacieuses dans leur esprit, tout ça mélangé dans une espèce de grand boubiboulga qui, à la fin, produit rien, quoi. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que vous avez des gens mal intentionnés qui, sur Internet, etc., vont récupérer la mise de ces gamins qui se posent des questions. Parce qu'il y a beaucoup de ces gamins qui sont intéressés par l'histoire, qui aimeraient en savoir plus. Sauf que combien de fois, moi, j'ai dit « Ah ouais, mais là, on n'a pas le temps ». Et on est coincé là-dessus. Il y a quand même à s'interroger au plus haut sommet de la rue de Grenelle, siège du ministère de l'Éducation nationale, comment ça se fait qu'avec une population de plus en plus éduquée, qui va de plus en plus à l'école, qui a donc fait de plus en plus d'heures d'histoire et de géographie et de MC, d'éducation civique, comment ça se fait que les classes d'âge les plus jeunes sont celles qui votent le plus Front National? Ça leur pose pas une question? Que l'on voit montrer le radicalisme religieux chez les plus jeunes? À quoi ça sert de nous payer, prof d'histoire géo? C'est pour leur faire bouffer de la bouillie qui les rendent totalement incapables d'envisager le monde sous d'autres angles que l'identité fantasmée, qu'elle soit nationale ou religieuse. Passer ça au prisme, vous voyez, de sa couleur de peau, de sa religion, de son identité, c'est un constat d'échec piteux, quoi. Mais c'est désastreux. Et notre capacité de résistance en tant qu'enseignant, quand j'ai vu une telle bouillie, je dis, moi, quand même, ça va gueuler, quoi. Oh, bah non. Puis bon, il faut qu'on se dépêche, hein. Quel devoir on va donner dans 6 mois? Et pourtant, j'ai des collègues qui sont pas des bénis oui-oui. Voilà, on est pris dans une espèce de flot d'injonction. Hein. Et puis, on suit ça. Super.
Parce que finalement, le but n'a pas été atteint. Après tout, hein, moins les gens savent d'où ils viennent, moins ils comprennent là où ils sont, et plus c'est facile de les envoyer là où on a envie qu'ils aillent ou qu'ils aillent pas. Fabriquer un peuple sans passé, c'est en faire des gens sans avenir qu'on peut envoyer à la boucherie, à l'usine, au chômage, dont le pouvoir peut faire ce qu'il veut, quoi.
Moi, j'ai toujours cette interrogation. À quel point sont-ils inconscients, manipulateurs? Est-ce qu'ils font ça sciemment? Ou bien, est-ce qu'ils sont bêtes et disciplinés? Je sais pas ce qui l'emporte, la bêtise ou un projet machiavélique, mais en tout cas, le jour où on se retrouvera avec Le Pen au pouvoir, avec des taux de radicalisation religieuse, etc., à niveau élevé, faudra pas pleurer. Je sais bien que prof d'histoire géo, on sauvera pas la terre entière, hein. On n'est pas les seuls à faire de l'éducation citoyenne des gens, et heureusement que c'est pas l'État qui prend entièrement en charge l'éducation civique des jeunes gens, mais on a notre rôle à jouer, et là, on nous empêche de le jouer. On nous rend impuissants. On sent bien qu'il y a des gamins chez qui ça tilte, enfin, mais la majorité, accepte la médiocrité qu'on leur donne à manger. C'est pas de la faute des gamins. Mais nos dirigeants auront des comptes à rendre.
On n'a hélas pas fini de parler de la casse de l'histoire dans cette émission qui se termine ici pour aujourd'hui. Merci aux copains profs d'histoire géo en colère que tu retrouveras très bientôt à ce micro. En attendant, tu peux réécouter cette conversation et plein d'autres sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Ce n'est qu'un combat, continuant le début. Salut!
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses.